Robotic Connection, Robotic Connection, nouvelle ère. Robotic Connection, nouvelle ère. Robotic Connection, nouvelle ère. Et bonjour, c'est Wendy Anne Carpentier et vous écoutez Radio FM Plus Montpellier. On se retrouve aujourd'hui pour une émission branchée intelligence artificielle. Nous avons l'honneur d'écouter Stéphanie Lebeuz, fondatrice et CEO de la start-up OnlyThings, la factory de l'intelligence artificielle basée sur Paris, et représentante de l'association Real Tech dans le sud de la France. Bonjour Stéphanie Lebeuz.
Bonjour Wendy.
C'est quoi OnlyThings concrètement? Vous parlez d'une start-up, pourquoi Paris?
C'est plus qu'une start-up, on est une factory ou un start-up studio. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de venir proposer aux grands groupes et aux ETI de sortir leurs projets d'innovation et leurs projets liés à l'intelligence artificielle de chez eux. Donc on va les prendre chez nous et avec nos data scientists et tous nos experts en stratégie, en organisation et nos profils business, on va venir accélérer ces projets d'intelligence artificielle et développer des solutions concrètes qu'on va ensuite restituer à nos clients pour qu'ils puissent s'en servir eux-mêmes par la suite.
Et comment ça s'est créé, ce concept-là de OnlyThings?
Donc moi, mon profil, c'est justement, j'ai créé plusieurs startups au préalable, parce que je suis passionnée d'innovation, je suis passionnée de tech, et notamment pas mal de startups dans le monde du BTP et de l'immobilier. Je me suis aperçue d'une chose, c'est que monter une startup, c'est bien, mais c'est un processus qui est très risqué, très long, très complexe. On met du temps à recruter les bonnes personnes pour créer des produits, on met du temps à les commercialiser. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est créer une structure qui mutualise en fait des compétences seniors dans le domaine du commercial, dans le domaine de la tech, du développement, avec des data scientists, pour justement être beaucoup plus rapide dans le développement et dans le déploiement de solutions, et pour pouvoir mutualiser des coûts et donc développer des projets et des produits pour moins cher que si j'étais une seule start-up focalisée sur un seul produit.
D'accord. Pourriez-vous aussi nous parler de l'association Real Tech? C'est quoi?
Alors, Real Tech, l'idée, c'est de promouvoir l'innovation dans la tech. Donc, real estate, en anglais, ça veut dire immobilier. Donc, on s'adresse en fait à tous les acteurs de la chaîne du BTP et de l'immobilier. Donc, vraiment du constructeur en passant par le promoteur, en allant jusqu'à la foncière, jusqu'au facility manager et même jusqu'à l'exploitant. On va permettre à tous ces acteurs-là de découvrir toutes les startups et toutes les innovations qui ont lieu sur leur métier. Et le but de l'association, c'est justement de leur pousser des startups, et notamment moi, mon rôle, puisque je suis représentante de Real Tech en PACA, c'est de donner de la visibilité à toutes les startups qui sont sur les territoires de la région sud, et d'aller les faire pitcher et d'aller leur permettre de rencontrer leurs futurs clients, donc les constructeurs, les promoteurs, les foncières, les facility managers.
D'accord. Et du coup, quel genre de profil vous recrutez à OnlyThings? Est-ce que tout le monde a accès?
On a des profils qui sont à la fois très orientés business, à la fois développement commercial, mais aussi compréhension des métiers de nos clients, donc sur le BTP et l'immobilier. Et une autre grosse moitié faite de profils ingénieurs, développeurs et ce qu'on appelle des data engineers et des data scientists qui vont pouvoir en fait travailler sur le développement de solutions d'intelligence artificielle ou de ce qu'on appelle le RPA, donc d'automatisation de processus.
Et quel genre aussi de profil recrutez-vous à la Real Tech?
La Real Tech, donc c'est une association, donc c'est plutôt une association de de motiver, de bon vouloir. Donc les deux fondateurs justement viennent de ce domaine-là. Aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir un maillage national le plus fin possible pour qu'il y ait des rencontres, des meet-up et des pitchs de start-up au plus proche des donneurs d'ordre.
Vous avez parlé tout à l'heure de clientèle pour OnlyThings. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns ? Vous avez parlé du BTP, de l'innovation.
Oui, alors on travaille pour des gros acteurs comme Colas, donc plutôt sur l'aspect travaux publics, routes. On va travailler avec des acteurs comme Ginger sur le côté analyse de sol, études géotechniques. On va travailler avec Aegis, une société des leaders, une société de conseil en ingénierie. Après, on va travailler avec des promoteurs de taille moyenne, des foncières aussi qui sont en pleine explosion. Donc vraiment avec différentes typologie d'acteurs sur l'intégralité de la chaîne jusqu'à l'utilisateur final. On travaille aussi avec ProBTP et BTP RMS sur la partie exploitant.
Donc essentiellement du bâtiment.
Pour l'instant, oui. L'idée d'OnlyThings, c'est de créer une startup factory par thématique. Donc pour l'instant, on est axé bâtiment. Là, on est en train de s'orienter santé avec déjà des premiers clients et des premiers retours d'expérience. Les deux étant liés, puisque aujourd'hui, une des grosses tendances, c'est justement de créer un bâtiment sain, confortable, où l'humain reprend une place centrale et primordiale.
Et aussi, quel genre de personnes donc côtoient Real Estate ? Enfin, les clients, enfin les personnes, est-ce qu'il y a des partenariats avec cette association ?
Alors, Real Estate, oui, n'est pas une entreprise, c'est une association. Donc, effectivement, il y a des gros partenariats avec des partenaires divers et variés. Donc, ils sont vraiment trop nombreux pour qu'on puisse toutes les citer, je ne voudrais pas en oublier. Par contre, effectivement, l'association est toujours en recherche de nouveaux partenaires pour faire croître l'écosystème dans le domaine.
Et en quoi consistent du coup vos missions en tant que CEO de OnlyThings ?
Mes missions, c'est à la fois m'assurer du fait que les missions que l'on mène pour nos clients soient bien menées, qu'en termes de delivery, tout fonctionne et qu'on ait une satisfaction client maximum. Mon autre mission consiste à avoir une veille permanente sur toutes les innovations qui peuvent éclore dans le domaine de la data, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'automatisation de processus, sur la filière BTP et immobilier, et comme je le disais, là, on commence à s'ouvrir à la santé. Et en dernier lieu, évidemment, à créer tous les partenariats, puisqu'on a un partenariat aussi fort avec The Camp, lieu d'innovation à Aix-en-Provence, et tout ce qui est développement commercial.
Et en quoi consistent aussi vos missions en tant que représentante de l'association Real Estate ?
Chez Real Estate, dans la région sud, je suis en charge de tout ce qui est animation de l'écosystème, avec notamment un premier meet-up qui aura lieu le 23 avril, donc mardi 23 avril, à partir de 18h30 au Technopôle de l'Arbois à Aix-en-Provence. On organise une première soirée de networking où 7 startups du BTP et de l'immobilier vont pitcher devant une audience très riche, puisqu'on va à la fois avoir des politiques, des promoteurs, des foncières, des constructeurs, des exploitants et tous les acteurs de l'écosystème de la filière BTP immobilier.
Quels sont vos axes de recherche chez OnlyThings ?
Aujourd'hui, on est très axé sur à la fois le traitement du langage. On est en train de travailler sur des outils intelligents qui permettent d'avoir, par exemple, des résumés de texte pour des appels d'offres, mieux comprendre son impact commercial, comprendre quels sont les appels d'offres sur lesquels on a le plus de chances d'être reçus. On va travailler ensuite sur tous les outils de type machine learning, deep learning, avec des outils qui aide à prévoir et à prédire le coût d'une construction sur un programme donné. Et enfin, tout ce qui est traitement d'image, avec à la fois du traitement d'image et de photos de drone, où on va pouvoir suivre son chantier en temps réel et créer des systèmes d'alerte. Et on va travailler aussi sur tout ce qui est images satellitaires pour pouvoir repérer des objets et suivre son chantier en temps réel.
C'est très vaste.
Tout à fait. Ça, c'est justement rendu possible grâce à nos experts en interne qui sont multi-compétences. Et certains vont être évidemment plus sur le traitement d'image, d'autres plus sur le traitement de texte, d'autres même plus sur le traitement du speech et de la voix. Et c'est grâce à nos ingénieurs et aussi nos profils métiers et business donc qui rattachent toujours la technique à un besoin et à un usage qu'on va arriver à sortir des solutions pertinentes que nos clients pourront évidemment utiliser et déployer en interne.
Et quels sont aussi les axes de recherche pour RealEstate?
Les axes de recherche, c'est toujours se reposer la question de qu'est-ce que sera l'immobilier de demain. Justement, être en avance de phase et avoir une vision prospective sur la ville en tant que telle, la Smart City, sur l'aménagement et l'urbanisme, sur l'intégration et le bon usage de l'innovation dans le bâtiment pour avoir une ville durable, agréable et un confort de l'utilisateur maximum dans le bâtiment.
Et maintenant, petite pause musicale, Holy Spirit, chantée par Carrie Job. C'est parti, vous écoutez Holy Spirit sur Radio FM Plus Montpellier. Écoutez Carrie Job, Holy Spirit sur Radio FM Plus Montpellier. Nous revoici avec Stéphanie Lebeuz, directrice et CEO de la start-up Only Things et représentante de l'association Estech pour parler intelligence artificielle. Alors Stéphanie Lebeuz, vous qui dirigez Only Things et représentez Estech, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle selon vous ?
L'intelligence artificielle, vaste sujet. C'est l'idée justement de le but ultime d'avoir un système aussi performant que notre cerveau et voire plus performant. Arriver notamment à recréer des réseaux neuronaux dans la machine et entre les machines. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de l'intelligence artificielle actuelle, qui est une IA dite faible et qui est un terme très galvaudé puisqu'en fait, la plupart des projets d'IA qui sont menés aujourd'hui par, donc je ne parle pas des GAFA, mais des entreprises que l'on côtoie couramment, sont plutôt des projets de data engineering, de traitement de données. Il y a plusieurs façons de voir cette IA. Il y a évidemment tout ce qui est traitement d'images. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de faire dans le BTT ? On est capable d'utiliser des images satellites, de faire des zooms d'avoir une précision telle qu'on est capable, par exemple, de voir en quasi temps réel si un engin de chantier est passé sur une zone précise. Et on peut créer des alertes puisqu'on va entraîner la machine à reconnaître un engin de chantier et à lui dire, voilà, si tu vois telle forme, tu dois alerter et donner tel type d'information. Voilà, ça c'est un exemple via le traitement d'image. Notre forme d'intelligence artificielle, c'est la voix. Alors, on connaît tous les assistants vocaux, les Siri, les Cortana, etc. Appliquer un business case aujourd'hui, c'est de pouvoir entraîner des modèles pour qu'ils soient plus performants qu'un Siri parce qu'on va lui apprendre un champ sémantique particulier. Je vous donne un exemple sur un chantier. Tous nos conducteurs de travaux et nos chefs de chantier rêvent d'une chose, c'est de pouvoir faire leur compte-rendu de chantier en temps réel et donc de pouvoir dicter leur compte-rendu dans un petit appareil qui va envoyer des données dans le cloud et ça va transformer leur compte-rendu directement en texte tout bien mis en forme et ils n'auront quasiment plus rien à faire de retour à leur bureau. Enfin, il y a tout ce qui est traitement de la data et on est avec l'intelligence artificielle, on est en plein dans ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning. On est capable de traiter des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de data. Autrefois, on utilisait des traitements dits algorithmiques, c'est-à-dire que c'était l'homme qui sélectionnait certains paramètres et disait à la machine, voilà, tu regardes ces trois paramètres et tu essaies de me trouver des corrélations entre eux. Par exemple, pour tout ce qui est prédiction du coût de construction. On allait dire, voilà, en fonction du nombre de mètres carrés, est-ce que c'est du bas de gamme, du haut de gamme, est-ce que c'est du logement, est-ce que c'est du tertiaire, je te donne plusieurs paramètres et tu me trouves les liens de corrélation et tu vas me créer une calculette qui va me permettre d'estimer mes coûts de construction. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus comme ça, on envoie à la machine des dizaines, centaines de milliers d'exemples de chantiers, de construction avec les coûts de construction estimé en amont et les coûts de construction réalisés. Et c'est la machine qui va se créer ses propres réseaux neuronaux et comprendre les liens de causalité et de corrélation entre les différents paramètres pour permettre au constructeur d'estimer au plus juste le coût de sa construction.
Donc c'est essentiellement, pardon, de la programmation.
C'est de la programmation. Avant tout, c'est déjà nettoyer des données, puisqu'on ne peut faire de l'intelligence artificielle que si on a ce qu'on appelle du big data. Donc il faut à la fois de la donnée en volume, de la donnée variée et de la donnée qui se rafraîchisse assez régulièrement pour qu'on ait un modèle qui soit toujours auto-alimenté et qui se remette à jour très régulièrement pour être toujours de la dernière fraîcheur.
Vous proposez donc plusieurs projets et plusieurs applications en intelligence artificielle. Donc, vous avez dit notamment dans le secteur du bâtiment, la santé, les banques, les assurances, l'éducation, l'agriculture, ça c'était sur votre site web. Pourriez-vous peut-être nous en dire plus comment ça marche? Quelles sont les spécificités entre vos applications et le rapport à l'intelligence artificielle?
Chacune de nos applications utilise, si ce n'est de l'intelligence artificielle, au moins du traitement de data avec une certaine complexité. Le dénominateur commun de tous nos projets est avant tout d'arriver à cerner le besoin de notre client, sa problématique. Ensuite, de pouvoir regarder rapidement, par exemple, un jeu de données ou un cas d'usage, si on veut travailler sur un moteur de recherche ou un extracteur ou un résumé de texte, on va tout de suite lui demander de nous fournir des exemples de PDF, de documents ou sérisés qu'il voudrait justement traiter ou dont il voudrait automatiser le classement. En une semaine, on va regarder son jeu de données, donc que ce soit des PDF ou alors même des fichiers Excel avec des centaines de milliers de lignes. En une semaine, on sera capable de lui dire si on est capable, avec sa data, de répondre à sa problématique métier. Et ensuite, on va pouvoir travailler au développement d'une solution qui correspondent exactement à son besoin métier.
Donc avec de l'intelligence artificielle.
Tout à fait.
Par exemple, est-ce que vous avez des noms de programmes d'intelligence artificielle? Comme tout à l'heure, on a parlé de Siri.
Oui, alors on utilise, on fait ce que j'appelle du demi-mesure. Pourquoi du demi-mesure? On ne fait pas donc du standard pur, on ne fait pas du pur sur mesure dans le sens où on va nous utiliser déjà des bibliothèques de code qui existent et on a déjà développé en fait des briques techno. Alors en fonction de ce qu'on va développer, les applis ou les programmes vont être différents. Par exemple, sur du moteur de recherche, on va utiliser de l'Elasticsearch. Après, sur tout ce qui est DataViz, parce qu'on est capable de créer des graphes et des outils de data visualisation, on va utiliser d'autres lignes de code. Ou jusqu'à utiliser des programmes de machine learning et de deep learning en fonction du traitement algorithmique qu'on a envie d'appliquer.
Vous avez parlé de Elasticsearch, c'est quoi concrètement?
C'est une façon d'aborder un moteur de recherche pour le rendre fluide et ensuite derrière de le rendre aussi auto-apprenant, c'est-à-dire qu'on va développer un modèle qui va s'améliorer, c'est-à-dire que plus l'utilisateur va faire de requêtes, va nous indiquer si le résultat de sa recherche était pertinent ou pas, on va pouvoir améliorer le modèle et faire un moteur de recherche de plus en plus efficace.
Et quels sont les avantages et les inconvénients d'après vous de ces applications avec l'intelligence artificielle?
Alors les avantages, c'est évidemment un gros gain de temps, une meilleure efficacité et surtout la capacité à utiliser ces ressources humaines, ces forces vives sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je vous donne un exemple. Donc on a travaillé avec une grosse étude notariale qui employait 3 personnes à temps plein juste pour ouvrir des PDF, comprendre la nature du PDF, le renommer et aller le classer au bon endroit sur son serveur. Bon. Ces tâches étaient chronophages, répétitives, pas très intéressantes. Donc, nous, on a permis justement d'automatiser ces tâches-là et donc de réemployer ces personnes et de pouvoir les mettre sur des sujets beaucoup plus intéressants. Et notamment plus tourné vers le client que sur du pur administratif. Donc ça, l'avantage, c'est clairement un gain de temps. C'est aussi une plus grande pertinence, puisque aujourd'hui, on est tous experts dans nos domaines, mais on a parfois ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc surtout, plus on a une grosse expérience dans le métier, plus on est persuadé de connaître tout sur le métier. L'existence du machine learning et des réseaux neuronaux peuvent permettre de bousculer un petit peu notre savoir et justement de nous repositionner et de connaître peut-être et d'apprendre de nouvelles corrélations entre paramètres qu'on n'avait pas vus jusque-là. Donc ça, c'est essentiellement les bienfaits de l'intelligence artificielle. Si on parle de d'inconvénients, ce serait le fait qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas mettre en place des projets d'intelligence artificielle, puisqu'il faut à minima avoir soit des processus répétitifs, où justement on ait suffisamment d'exemples pour nourrir la machine et pour permettre de faire quelque chose de pertinent, de créer un modèle robuste. Soit avoir de la donnée en masse qui permette, pareil, d'alimenter le modèle.
Depuis quelques années, les robots humanoïdes comme Sophia, Pepper, Nao, Jia Jia, Erika commencent à voir le jour. Et on peut voir certains déjà intervenir en politique dans les films et dans les shows télévisés. Pensez-vous travailler au sein de OnlyThings ou Estech avec des robots humanoïdes en 2025-2050?
Oui, ce serait bizarre si je vous répondais non, étant donné que je baigne dans cet univers. Je pense que les robots peuvent, s'ils sont utilisés à bon escient, peuvent avoir des impacts tout à fait intéressants pour les entreprises. Je parlais tout à l'heure du fait d'automatiser certains processus. L'idée n'est pas de détruire des emplois, mais de pouvoir réemployer et remettre réemployer certaines personnes qui sont sur des tâches répétitives sans grand intérêt, les faire se retrouver du sens dans leur mission pour justement déléguer ces tâches un peu plus ingrates à des robots.
Vous avez récemment publié un livre, je crois, sur du crédit jusqu'au crowdfunding. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, c'est-à-dire qu'avant de devenir entrepreneur dans la tech, j'ai eu ma première partie de ma carrière dans la finance. C'est d'ailleurs comme ça que je suis passée au monde de l'entrepreneuriat, c'est en étant capable justement d'aller monter des business plans, d'aller trouver des investisseurs, des business angels, des fonds d'investissement. Et d'ailleurs, je suis associée aussi dans un fonds d'investissement dédié à l'innovation. En parallèle de ça, j'avais envie d'écrire un livre qui démystifie un petit peu les différentes façons pour une petite entreprise d'aller trouver de l'argent. Donc dans mon livre, j'explique à la fois comment on va pouvoir aller chercher des subventions, donc du non dilutif, des prêts bancaires, en définissant un petit peu tous les types de produits de crédit qu'une banque peut proposer à une petite structure en fonction de son stade de développement. Évidemment, on ne va pas avoir le même type de produit sur une start-up qui vient d'être créée que sur une entreprise qui tourne et qui est rentable depuis plusieurs années, jusqu'à expliquer tous les mécanismes dits dilutifs, donc où on va pouvoir ouvrir son capital. Et là, j'explique un petit peu les différences entre ce qu'on appelle la love money, le family and friends, le business angel, le fonds d'investissement et tout ce qui est corporate venture.
Merci beaucoup Stéphanie Lebeuz, ce fut un plaisir d'échanger avec vous et je vous souhaite une très bonne continuation dans tous vos projets et dans vos startups. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Et maintenant, nous allons écouter Rip It Up, interprété par Capital Kings. C'est parti, vous écoutez Rip It Up sur Radio FM Plus Montpellier.
Thank you. I'm ripping up this thing like an animal. I've been doing this way before your phonies came along. Way too blessed, thank God, look what we came upon. I'm way too fresh, thank more, yeah, I'm killing them. Never gonna stop, man, I'm running off adrenaline. Three different countries in 3 days, man, we living in. Yeah, you know I always rap the most high. You can catch me on my vibe, till I die. Yeah.